Bonsoir, cher ami. Alors, ce soir, nous continuons et dans l'Apocalypse, et nous allons nous intéresser à la deuxième église, l'église de Smyrne. La dernière fois, on a regardé l'église d'Éphèse et on a pris le cœur de ce message qui était adressé à l'église d'Éphèse et on s'est aperçu que le Seigneur lui disait qu'elle avait fait de très belles choses, mais qu'elle avait perdu son premier amour. Et on s'était arrêté sur cela. On avait considéré que c'est très malheureux pour chacun d'entre nous dans nos propres vies d'abandonner notre premier amour et de se laisser aller dans notre vie, dans notre témoignage, etc., parfois, par moments, et de revenir. Le Seigneur nous exhortait à revenir, de se repentir et de revenir en force. Alors, ce soir, on va regarder l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, bien que on voit de grands tourments, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, en introduction à son chant, c'est vrai que l'église de Smyrne est une église qui a fait face à de grands tourments, de grandes épreuves. Et on va voir aussi que c'est une église qui était forte. Catacombes à Rome. Alors, je pense que tout le monde, on sait c'est quoi des catacombes. Les catacombes, c'est des tombeaux dans le sous-sol. Là. Et puis, on allait déposer les morts dans cela. Et dans les premiers temps, vers la fin du premier siècle et un peu après, les églises, en raison de la grande persécution et des troubles qu'il y avait à l'époque au travers de la Rome, alors les premiers chrétiens, nos ancêtres, ils se réunissaient dans les catacombes très tôt et puis ils faisaient leur culte là, si vous voulez. Ils priaient là puis, parce qu'ils étaient à l'abri. Alors, ça nous montre la différence qu'on a aujourd'hui et ça nous indique aussi les tourments que l'Église de Smyrne a dû endurer. Alors ici, c'est un autre catacombe et l'Église dans les catacombes. Alors, ça peut paraître effrayant. Covadis. Je pense que tout le monde sait c'est quoi Covadis. On approche de Pâques. En fin de semaine prochaine, c'est Pâques. Et moi, j'ai grandi dans un foyer assez pauvre. Et puis, quand on arrivait à Pâques, quand j'étais tout petit, ce que j'aimais beaucoup quand on arrivait à Pâques, à Noël aussi, j'aimais beaucoup le côté religieux, le côté, l'aspect Dieu. Jésus-Christ, les Écritures, depuis que je suis tout petit. Et quand on arrivait à Pâques, pour moi, c'était vraiment spécial. Oui, parce qu'il y avait du chocolat. Mais aussi parce qu'à la télévision, avec Jeudi, Vendredi Saint, vous savez, Lundi Saint, on avait le privilège à la télévision. C'était pas comme aujourd'hui, là, il y a 40 ans, 45 ans. Alors, on avait quelques films bibliques à la télévision et ce que j'aimais les films bibliques. J'écoutais ça et Covadis, c'est un de ces films où est-ce qu'on voit les premiers chrétiens à la fin du premier siècle, où est-ce qu'on voit les premiers chrétiens, on va regarder un petit peu, on voit les premiers chrétiens qui sont martyrisés dans la grande arène de Rome. Alors, ils se faisaient, alors on voit l'image ici, alors on voit c'est une princesse qui est attachée puis qui va se faire vous voyez, c'est un taureau et là c'est son garde du corps qui va essayer de la défendre. Et ici c'est les lions, ils vont venir s'amuser à déchirer vivant. Ce sont tous des chrétiens, des frères et sœurs. C'est un film, mais c'est selon les faits historiques. Alors, je pense que tout le monde a vu cette première image que nous avons là. Alors, les premiers chrétiens martyrs dans le grand cycle de Rome. Alors, on les assemblait. Vous vous savez, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et c'était le spectacle de l'heure de voir des chrétiens se réunir tous ensemble et être dévorés par les lions, par les tigres, etc. Et là, on voit, là, ils sont tous rassemblés et il y a un frère qui... Moi, là, quand j'étais tout petit, là, je voulais devenir ça. Un frère, un disciple du Seigneur Jésus, puissant, qui va être capable de se tenir debout, même devant les lions, les tigres, devant les dangers, sachant que Dieu est... On ne le voit pas, là. Personne ne voyait Dieu ou ne voyait les anges, mais Dieu est avec eux. Là. Seigneur Jésus, le Maître, est avec eux. Là. Et c'est une représentation, mais c'est arrivé véridique. C'est des faits vécus. La dernière fois qu'on s'est vu, on a vu une église qui abandonnait son premier amour et qui par conséquent est devenue faible. Et c'est la même chose pour nos vies personnelles. Ce soir, on va regarder l'église de Smyrne. L'église de Smyrne est cette église qui a fait face à ces événements de terreur. Et pourtant, les témoignages qu'on a dans l'histoire nous témoignent de fait de la sorte. Des frères et des sœurs qui étaient puissants, même face là, aux derniers instants de leur vie terrestre, glorifiaient Dieu, honoraient le roi des rois et proclamaient le Christ crucifié, le roi sauveur qui était dans... C'est enlevant les témoignages qu'on a. Polycarpe, un des disciples de Smyrne qui est décédé à la fin du deuxième siècle, si ma mémoire est bonne, et puis il est mort, il a été, on l'a tué, les Juifs l'ont tué avec Rome, et il avait 95 ans lorsqu'il est mort, et il a dit, on l'a forcé, là, avant de le brûler, de le détruire, on l'a forcé à renier le Christ, et fortement, et vous savez, là, avec puissance, il déclarait, pendant 85 ans de ma vie, j'ai glorifié et honoré mon Sauveur, mon Maître. Ce n'est pas aujourd'hui, tout de suite que je vais commencer. Et puis, il est mort comme ça. Alors, il y a des témoignages comme ça. Et on voit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, comment est-ce qu'on a les héros de la foi. Hein? C'est quand on regarde ça, là, puis attentivement, là, wow, les héros de la foi. Alors moi, depuis que je suis tout petit, j'aimerais être comme ça. Et nous tous, on est tous des enfants de Dieu, et on devrait regarder ça, on devrait viser ça. Oui, on doit avoir les regards sur le Maître, sur le Seigneur Jésus, vous comprenez? Comprenez bien ma pensée, c'est le Maître qu'on regarde. Et le Maître a été parfait dans sa représentation et dans son exemple. Et le Seigneur permet aussi que nous ayons des frères et des sœurs qui, au travers de l'adversité, hein, demeurent puissants et forts dans leur témoignage. Bien qu'ils soient faibles, hein, on est des pécheurs, mais on demeure puissants. Alors, on va lire le texte qui nous intéresse ce soir, chapitre 2, Apocalypse, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si vous voulez, on va se courber quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, encore une fois, merci pour cette parole que l'on va regarder. On va se pencher, on va partager. Et merci pour ce privilège et ce temps qu'on qu'on a pu mettre à part pour se réunir ensemble dans un endroit de paix, de liberté. Et Seigneur, c'est un privilège qu'on a de pouvoir faire cela tout bonnement. Et Seigneur, on te demande de nous bénir. On est là devant toi et tous et chacun. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu nous parles, tu nous fasses du bien. Tu parles à nos cœurs et il n'y a que toi qui es capable d'aller dans cet endroit, Seigneur, à l'intérieur de nous, et qui est capable de toucher ces cordes sensibles pour nous parler et nous faire du bien, nous rappeler alors, nous fortifier, Seigneur. Nous te demandons de le faire au nom de Jésus et de nous bénir. Alors, tout d'abord, le Seigneur, il nous dit, hein, je connais, au verset 9, je connais ton affliction. Et quand il dit, je connais, il sait vraiment ce dans quoi on est. Hein, le mot qui est employé, là, quand il dit, là, je connais ton affliction, il n'en a pas juste entendu parler. Il la connaît encore plus que nous-mêmes. Il sait vraiment ce qu'on vit. On n'a même pas besoin. Oui, dans la prière, on va le faire. On va lui communiquer ce qu'on a ici. Mais il connaît là, tous les tenants, tous les aboutissants. Vous comprenez le problème là, mathématique, si on peut faire une image là, dans tous ces détails. Il sait là où est-ce qu'on est rendu. Et il n'a pas oublié rien de tout ce qui s'est passé là. Parce que là, on est dans un temps, quand il dit « je connais », on est dans un contexte d'affliction, d'épreuve. Hein, on est dans un moment difficile et ça peut être une multitude de choses qui nous concernent. Évidemment, on parle de l'Église de Smyrne, mais tout de suite, hein, on fait l'application pour nos vies personnelles à notre époque. OK? Il connaît, le Seigneur, notre affliction. Il connaît notre tribulation. Cette pression, hein, ça peut être une angoisse, ça peut être un fardeau, ça peut être des troubles, ça peut être de la persécution. On n'a pas la persécution que nos frères et sœurs subissent, soit en Amérique latine, ou en Asie, ou en Europe de l'Est. Ou est-ce qu'on va payer de sa vie le témoignage du Seigneur Jésus, de se tenir debout. Ici, on va avoir d'autres sortes de persécutions, mais certainement qu'on a, hein, on vit des troubles de toutes sortes qui sont vraiment troublants dans notre époque. On a des angoisses et des fardeaux qui, parfois, hein, on le voit, la société dans laquelle on vit. On voit nos frères et nos sœurs et on voit nos contemporains, comment est-ce qu'ils... Il y a des fardeaux, il y a des troubles énormes. Alors, Seigneur, il connaît ça. Il connaît tout ça. Il n'y a pas besoin d'un dictionnaire pour aller voir dans un atlas, pour aller voir la définition, puis où ça a commencé, puis comment ça se fait. Il sait tout. C'est lui qui nous a créés. Il connaît dans les moindres détails les réactions qu'un homme peut avoir ou une femme étant scalée dans son contexte. Alors, il connaît vraiment là, tout. Il n'y a pas de secret par rapport à nos afflictions, à nos tribulations. Et j'aimerais qu'on aille dans Psaume, juste, on va prendre juste quelques versets, et j'aime aller dans les Écritures. Ça nous enlève du temps, évidemment, mais quand même. Psaume 6, 9. Psaume 6, 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. 39, 13. Psaume 39, 13. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sensible à mes larmes. 56. 9. tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ça me rassure de voir. Le Seigneur a compté mes larmes. Puis il y en a des larmes. Michel, je me rappelle, Michel, il y a quelques temps, il dit, je ne sais pas si c'est normal, mais il dit, plus je vieillis, on dirait, plus je pleure. Parce qu'il, hein, et puis il nous témoignait, il nous parlait que, mais quand on prend de l'or, d'une certaine façon, quand on s'approche du Seigneur, on voit davantage qui qu'on est, on le comprend plus, etc. Puis, il y a des larmes à verser parfois, hein. Non pas que des larmes. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Vous comprenez que c'est une réalité. Et je dirais que c'est des belles larmes, c'est des belles pleurs. Mais souvent, si on pleure sur nous-mêmes à cause de ce qu'on est, à cause de notre propre cœur, de nos manquements, de nos faiblesses, c'est des larmes différentes. Et il y a les larmes aussi qui vont être, parce qu'on est des enfants de Dieu fidèles, et on est dans l'adversité, on a ces larmes qui sont difficiles. Et le Seigneur, comme qui vient de le dire, il les compte. Il les a dans son outre. Et c'est rassurant, ça. C'est rassurant de voir que Dieu a un tel souci. Il connaît. Ne t'inquiète pas. Je connais ton affliction. C'est vraiment rassurant de voir ça. Ta tribulation et ta pauvreté, et le mot pauvreté ici, là, il fait référence là, à indigence et itinérant. Autrement dit, l'Église de Smyrne, quand il lui parle à elle, il sait très bien qu'elle est pauvre. Elle manque de tout, si vous voulez, monétairement, elle est vraiment pauvre. Mais il lui dit en même temps qu'elle est extrêmement riche. Hein, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et le mot qui est là, riche, c'est une abondance de tout. Et on pourrait dire plein aux os. Alors, plein aux os, on va le voir dans Romains 12, qu'on connaît bien, parce qu'on est dedans. Romains, on a une petite idée de Romains 12. Et ça va... Alors, c'est possible d'être très pauvre, hein, d'être matériellement, là, d'être très pauvre, mais Dieu, lui, ça, c'est pas que la richesse qui l'intéresse, comme dans le monde dans lequel on est. Et l'inverse va avoir lieu, hein. C'est possible d'être très, 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 très riche, monétairement, mais d'être vraiment pauvre. D'être vraiment pauvre. Alors, dans Romains 12, 2, regardez la belle richesse qui est là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est ce qui caractérisait l'Église de Smyrne. Vous savez, on regarde les églises ici et là, on va essayer de prendre les points centrales et on s'intéresse au cœur de l'Église. Mais vous êtes conscient aussi que le Seigneur a pris ces églises qui était très, très caractéristique à cette époque du premier siècle. Hein? Chacune de ces églises qui ont vraiment existé dans ces villes de l'ancienne Grèce, qui faisaient partie de l'Empire romain, et chacune d'elles avait sa couleur à ce moment-là. Et chacune d'elles vivait les descriptions qu'on a là. Et les scholars, et de façon générale, on reconnaît qu'au travers de ces sept églises-là, hein, ça représente, c'est une image de toute l'Église, de toute l'histoire de l'Église. Hein? Dans l'histoire. L'Église a ressemblé, elle a eu des époques où est-ce que ça ressemblait à ça. Et même encore aujourd'hui, en 2012, on va pouvoir voir des églises un peu partout dans le monde qui vont avoir ces couleurs, si vous voulez, de ces sept églises qui sont là. Et même, et encore plus loin, une même église pourrait, dans sa vie, avoir ces sept couleurs. Voyez-vous où est-ce que je veux en amener? Alors, le Seigneur a pris ces photos, clics, de ces églises pour nous montrer, parce que ça nous concerne, toutes ces choses qui sont là, c'est des choses qui arrivent à l'Église de Christ. Et nous sommes l'Église de Christ. Et ce sont des choses qui, si on n'a pas vécu tout de suite, on peut vivre tantôt, vous comprenez? Ou on les a vécues dans le passé. Alors, cette richesse que l'Église de Smyrne possédait, c'était une de ses richesses, de ne pas être conforme à cette époque dans laquelle elle était, à l'époque de Rome. Et c'est une même caractéristique, une même richesse qu'on peut avoir en tant qu'Église locale et en tant qu'individu. C'est une des plus grandes richesses qu'on ne peut pas avoir. On a le salut, c'est notre plus grande richesse d'avoir ce si grand salut. Comment négligerions-nous un si grand salut? Le salut que Dieu nous a accordé en Christ. Mais en étant enfant de Dieu, on a des richesses à avoir. Et ce n'est pas des comptes de banque, et ce n'est pas des maisons, des compagnies. On peut avoir ces choses-là. Et le Seigneur bénit ses enfants, on le voit. Mais ce sont des richesses matérielles qu'on ne pourra pas emmener dans l'au-delà. Mais ces richesses dont on parle ici, entre autres Romains 12, 2, c'est une richesse qu'on doit avoir de notre vivant avant d'aller rencontrer le Seigneur. On doit être riche à ce point. Et cette image de cet homme qui était debout devant les lions et qui intercédait pour fortifier ses frères et sœurs dans le dernier moment de sa vie, ils n'allaient pas se faire servir un repas au restaurant. Dans les derniers moments de leur vie, ils allaient se faire déchirer par des bêtes féroces. Imaginez! Il fallait être fort dans la foi. Il fallait s'attendre à ce que Dieu soit là. Et il l'a été. Ils ont été forts jusqu'à... Et on a des témoignages de frères et de sœurs qui intercédaient, qui priaient Dieu. « Seigneur, je n'ai pas la force d'aller face à la mort, mais rends-moi fort. » Et on a les témoignages qu'ils ont été forts. Quand on regarde ces témoignages, on n'en revient pas. C'est complètement inhumain. Et en fait, ça l'est. Parce que Christ était vraiment avec eux à ce moment-là. Il y a une image dans l'Ancien Testament où est-ce que le prophète Élisée, on vient pour l'attaquer parce que on reconnaît que le roi d'Israël, sait toute chose. Il devance les pensées du roi de Syrie. Et là, le roi de Syrie est fatigué de tout ça. Allez me chercher ce gars-là, puis on arrête ça. Je suis tanné, là. Je suis pas capable de rien faire. On dirait que le roi d'Israël couche dans ma chambre et qu'il entend tout ce que je dis. Parce que le prophète Élisée lui rapporte. C'est l'Éternel qui dit à Élisée. Il lui rapportait toutes les paroles du roi. Là, le roi, il y en avait là. C'est assez de me faire devancer dans mes plans. Alors, vous allez aller tuer Élisée. Et là, Élisée était là avec son serviteur. Et son serviteur était à côté de lui. Et là, il chéquait puis il avait peur parce qu'il voyait toute l'armée de Syriens. Et là, Élisée, tout calme. Calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont devant nous. Parce que le serviteur d'Élisée ne voyait rien. Et là, Élisée a dit, « Seigneur, ouvre-lui les yeux. » Et là, le serviteur, ses yeux ont été ouverts. Il en a eu le souffle coupé de voir l'armée qui était là, les anges qui étaient là, l'armée de l'Éternel. C'était incroyable. Alors, c'est ça. C'est cette puissance que Dieu prend plaisir à donner à ses enfants dans le moment. Dans le moment d'intensité, d'épreuve et de tragédie qui peut arriver. Alors, c'est possible d'être si fort qu'on ne peut pas en comprendre. C'est inhumain. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. Il aimerait donc voir beaucoup de ses enfants comme ça. Une autre belle richesse Acte 3:6. Au début, hein, Pierre et Jean. Alors Pierre dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Hey. Ça, c'est de la puissance. Au travers de l'histoire, il y a un pape à l'époque de Thomas d'Aquin. Après la cérémonie, le pape, il comptait l'argent. Ouais, Thomas, l'Église peut plus dire, on n'est ni argent ni or. Il sonnait l'argent, puis il ramassait, puis il y en avait de l'argent. Après quelques silences, après quelques moments de silence, Thomas d'Aquin, qui était un vrai chrétien, il dit, « Ouais, mais monsieur le pape, elle ne peut plus dire non plus, lève-toi et marche. » Alors, le parallèle qui est là, hein, c'est, oui, l'Église, à l'époque de Constantin et plus tard, hein, l'Église est devenue étatique et grosse, et etc., opulente, avec des beaux vêtements, des belles statues en or, des gros bâtiments, puis tout ce que vous voudrez, hein, la pape mobile, etc. Mais elle n'a jamais été aussi faible. Et c'est vrai qu'elle ne peut plus le dire. Lève-toi et marche. Je ne veux pas mépriser les richesses matérielles, on en a besoin pour vivre. Et Dieu s'est servi de serviteurs qui sont extrêmement riches, mais qui marchent près avec le maître et qui font des œuvres incroyables, des belles choses. Hein, avec des millions, avec des millions, on peut faire des millions de belles choses. Mais le Seigneur, c'est des contextes particuliers et le Seigneur aime se glorifier dans la petitesse. Hein. C'est quand on est pauvre, quand on est faible, quand on est petit, que le Seigneur peut se glorifier dans ses enfants. Et tous les autres beaux versets, où est-ce qu'on voit? On voit ces richesses spirituelles que l'on peut avoir, qui sont à notre disposition et qu'on doit acquérir dans nos vies ici-bas. Alors le Seigneur, il connaît notre affliction, il connaît notre pauvreté, mais oui, ça peut être difficile d'être pauvre, on en convient là, mais il faut être plus concerné à propos de notre richesse, cette vraie richesse. Et l'Église de Smyrne avait ça. Et nous, on doit travailler en tant qu'assemblée locale et en tant qu'individu dans nos vies personnelles à être riche de cette façon. Il connaît aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Hein, à l'époque, il y avait des juifs, mais les juifs, hein, c'est imaginez les Juifs, vous savez comment est-ce qu'ils étaient? Le jour du sabbat, hein, tu avais le droit de rien faire. Même si quelqu'un était en train de mourir, tu avais laisse-les mourir, c'est le jour du sabbat. Il était vraiment religieux, là, sectaire. C'était terrible, les Juifs, à l'époque. Et il ne fallait pas marcher plus que tant de mètres, tu n'avais pas le droit de prendre un morceau de bois, hein, etc. Vous le savez, comment est-ce que le Seigneur les a repris sévèrement? Scribes, pharisiens, hypocrites, sépulcres, blanchis. Et quand on a tué Saint Thomas d'Aquin, alors les Juifs se sont précipités, c'était un jour de sabbat, en fait, et là, ils ont fait des kilomètres carrés pour aller chercher tout ce qu'il y avait de bois pour faire le bûcher et pour le brûler. C'était un jour de sabbat, mais là, voyez-vous comment est-ce qu'ils étaient, et c'est ces Juifs-là qui disaient, hein, le vrai Dieu, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un parallèle qu'on pourrait faire, c'est ces extrémistes, hein, les musulmans extrémistes qui disent qu'au nom de Dieu, c'est beau et c'est bon d'aller se faire exploser dans un autobus, partout, il va y avoir des enfants. C'est un culte raisonnable à Dieu, il va prendre plaisir à ça. Ça ne rentre pas ici. Hein? Ça n'a aucun sens de penser comme ça. Mais pourtant, il y a des millions de personnes qui le croient, ça. Alors, à l'époque du premier siècle, les Juifs, il y en a qui étaient comme ça. Il martyrisait les chrétiens. Paul était un de ces hommes-là. Il le dit lui-même. C'est son témoignage. J'étais un homme violent. J'ai persécuté l'Église. J'y ai fait du mal. Il disait, j'allais me chercher des lettres partout. Là. Partout où il y avait un chrétien, je voulais aller. Il en était malheur. Puis beaucoup de ces juifs-là étaient comme ça. Ils voulaient écraser les chrétiens. Ils ne pouvaient pas accepter un messie comme ça. Un messie va-nu-pied. Ils attendaient quelque chose de beaucoup plus glorieux que ça. C'est pour, eux, ils attendaient un David, un Salomon. C'est pas vrai que le messie ressemble à ça. Alors, il y a eu beaucoup de persécutions contre l'Église. Et c'était des hommes qui se proclamaient de Dieu, les juifs. Et aujourd'hui, on a cet exemple-là. Et malheureusement, souvent, dans l'Église de Christ, on va trouver ça aussi. Peut-être pas à cette extrémité, mais on va voir et on va entendre des frères et des sœurs qui vont calomnier leurs frères et leurs sœurs, ils vont le faire. On ne devrait pas faire ça. On a entendu ce matin, à l'heure de l'adoration, comment est-ce qu'on doit être des artisans de paix, de pardon. On doit, un enfant de Dieu, un frère et une sœur, c'est précieux aux yeux de Dieu. Et ça doit être précieux à nos yeux. Il faut faire attention. Il arrive toutes sortes de choses, je le sais. On a tous nos caractères. Je le comprends, ça. Juste le fait d'être là, d'être ce que je suis, je peux taper sur les nerfs à des frères et des sœurs, je le sais. C'est pas de ma faute, mais c'est quand même un fait. Il y a des caractères, il y a des personnalités qui ne peuvent pas se voir. Juste de s'approcher de 10 mètres, c'est trop. C'est pas la faute à personne, c'est comme ça. Mais il en demeure pas moins que le Seigneur, il demande à chacun de nous de s'approcher à 1 mètre. Même si, vous comprenez? Il veut qu'on le fasse. Il veut qu'on maîtrise ce qu'il y a ici, là. Si on n'avait pas le péché en nous, là, il n'y en aurait pas de fluctuation dans l'énergie. Vous comprenez? On serait capable de s'approcher de tous les caractères, de toutes les personnalités. Mais là, ce n'est pas le cas. À cause qu'on a tous nos personnalités. Il y a des personnes qu'on n'a jamais vues. Puis on les voit de loin, là, puis c'est comme un aimant. C'est comme si on s'était tout le temps vu, tout le temps connu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec certaines personnes. Tu t'approches, là, puis c'est comme si tu mettais ta main dans un gant. Et que c'est merveilleux. Et ça, c'est Dieu qui fait ça, parce qu'on en a besoin en tant que frères et sœurs. On a besoin d'avoir des frères et des sœurs avec qui on s'attire. Hein, c'est comme, et que ça fait du bien. C'est donc bon. Mais parfois, c'est le contraire. C'est difficile avec d'autres frères et sœurs, mais il faut quand même s'approcher. Puis il faut les aimer, puis il faut travailler à ça. Si un des deux ne travaille pas à ça, OK, mais vous comprenez, on ne doit pas laisser la chair et l'ennemi utiliser ça pour accomplir ses fins. Et c'est ça qui arrive et qui amène à des calomnies, hein, à de la haine, à des conflits. Hein. C'est ce qu'il veut, Satan. L'ennemi, il veut juste une chose, détruire l'Assemblée du Cap-la-Madeleine. Détruire l'Assemblée de Shawinigan. Détruire l'Assemblée à Grand-Mère. Partout ce qu'il y a une Assemblée chrétienne, Satan, il veut la détruire. Il déteste. Il est comme un juif enragé à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Il veut détruire l'Église. Comprenez? Il n'est pas capable de la sentir. Quand il voit un chrétien fort qui se tient, comme on a vu tantôt, là, il vire fou. Il va tout faire. Il va engager des armées pour essayer de le détruire, comme Job. Il n'est pas capable. Un chrétien fort et une chrétienne forte. C'est incroyable comment est-ce que ça fait venir fou, l'ennemi. Il devient comme un lion rugissant, enragé. Il pense juste à dévorer. Mais pourtant, c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on soit puissant. Dans notre témoignage, dans notre vie chrétienne. Il veut qu'en tant qu'Église locale, on soit puissante. On va commencer à prier là, bientôt. Là. Vous allez voir. un miracle va arriver à Cap-de-la-Madeleine. Le croyez-vous? Moi, je le crois. Puis je sais que ça va arriver. Vous allez voir. On va en avoir le souffle coupé. Ce samedi 14 avril, quand on va commencer à prier là, ensemble, on s'est décidé là, d'un commun accord. Ceux qui vont pouvoir le faire, de jeûner, puis de commencer à prier en tant qu'assemblée, regardez bien ce qui va arriver. On va persévérer dans ça. J'espère qu'on va persévérer. L'assemblée va avoir un choc électrique. Là. Hein? C'est ça qui va arriver. On va devenir fort parce que l'unité va... Hein? L'unité va être restaurée au travers de ses enfants et de son sang. Et tout bonnement, là, dans l'assemblée, là, l'amour va couvrir une multitude de choses. Hein? Tes cheveux sont pas bien peignés le matin, c'est pas grave, t'es beau pareil. Ta cravate est tout croche, c'est pas grave, elle est belle. Tu comprends? Tes pantalons sont trop courts. Ta chemise est froissée, c'est pas grave. On s'aime. Ça nous fait rire, hein? On a raison de rire, mais souvent, hein, pour des banalités, on est prêt à calomnier, à s'élever en abaissant notre frère, notre soeur. Et que ça ne devrait pas être comme ça. On ne sait pas c'est quoi. On a de la misère à avoir des cœurs de compassion, de miséricorde, à être des artisans de paix. Ce sont des richesses qu'on doit chérir, on doit saliver pour les posséder. Et être une église forte. Romains 2, 28-29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. On n'a pas ça, nous autres, à moins d'être circoncis, parce que c'était à notre époque, là, mais... Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Je suis circoncis. Mon cœur l'a été. Et c'est Christ qui en est le chirurgien. Il a fait ça. Je suis un vrai juif. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est pour ça qu'on est puissant. Parce que Christ est en nous. Le Seigneur nous dit au verset 10 de ne pas craindre ce que tu vas souffrir. Et de craindre, c'est d'avoir, hein, et là, c'est une peur extrême d'être effrayé, d'être alarmé. Oui, ça fait mal, c'est épeurant, mais je vais être avec toi, comme qu'on a vu dans l'image. Il faut plutôt craindre, ce qu'il faut craindre, frères et sœurs, il faut craindre davantage l'abandon du premier amour, comme à Éphèse. Il faut craindre le mélange et l'idolâtrie, qui est à Pergame. Il faut craindre la tradition et la superstition qui est à Thyatire. Il faut craindre aussi le sommeil spirituel qui prévaut à Sardes et les illusions et la suffisance propre qui se trouvaient à la Odyssée. Et là, c'est ça qu'il faut craindre. Ça, c'est les richesses du monde. Il faut en avoir peur. Il faut s'éloigner de ça. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et éprouvés, là, c'est un examen. C'est comme si le Seigneur il disait, gars, je suis un professeur, je t'ai préparé un bel examen. Je le supervise, l'examen. Les épreuves, que Satan, c'est l'artisan, vous savez, des difficultés, tout ça. C'est lui qui. Mais le Seigneur, il permet ces choses-là. Hein, c'est un test pour éprouver notre foi, pour nous rendre plus forts, etc. C'est important de connaître notre foi, de la visualiser. Et ces épreuves et ces tests, c'est ce qu'ils font en partie. Il nous demande d'être fidèles, d'avoir la foi, de croire que c'est vrai, Dieu, c'est ce qu'il dit. Croyez-moi, tu n'as pas besoin de craindre. Oui, c'est vrai que tu vas souffrir, mais il faut que tu sois éprouvé, c'est tout. Hein? Puis tu vas avoir une tribulation, il faut que tu en aies. C'est écrit dans les Écritures. Hein? L'élève n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été, hein, c'est certain qu'on va subir des choses. Mais il nous dit de ne pas craindre parce qu'il va toujours être avec nous. Et il nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de vie. Et la couronne de vie dont il nous parle, hein, dans l'original, on voit que une description, une badge royale, un trophée de jeu public, un symbole d'honneur. Alors, ça nous montre. Le Seigneur, il veut vraiment nous honorer. Quand il va revenir chercher son Église, puis qu'il va nous amener dans sa présence, puis qu'il va accomplir son salut, excusez, il dit, je m'en reviens pour vous donner, hein, pour vous récompenser, parce que vous avez été des bons serviteurs, des bonnes servantes. Il va nous récompenser, il va nous honorer. On est déjà honoré d'être sauvé, puis qu'il soit avec nous, mais davantage dans l'éternité, imagine comment ça va être solennel, ça va être grandiose d'être honoré par le Maître lui-même, devant toute l'Église. C'est un grand privilège. Il sait dans quoi on est. Il le sait. Hein? Il faut juste être fort en lui. C'est difficile d'être fort, je le sais. Je suis faible moi-même. Je suis handicapé. C'est difficile d'être fort. Il y a juste le Seigneur qui peut nous rendre fort. Il y a juste lui. Il n'y a pas de pilule, il n'y a rien d'autre. Oui, on peut faire des exercices puis être un petit peu plus raide. Puis... Mais être plus raide, ça ne nous fera pas... Ça va peut-être nous faire gagner une course de 100 mètres, mais... Face aux épreuves de la vie, vous comprenez? On a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur pour qu'on puisse s'envoler comme un aigle et voler haut, être fort, comme les témoins de la foi nous le disent. L'Église des catacombes, dans l'histoire de l'Église, les plus grandes persécutions sont venues de personnes religieuses, telles les Juifs, ou à notre époque, comme je faisais référence tout à l'heure. Ceux qui prétendaient adorer Dieu, le même Dieu que les chrétiens, devinrent leurs pires ennemis. Il ne faut pas que ça soit ça dans notre Église. Il ne faut pas que ça soit ça dans l'Église de Christ. Il faut arrêter ça. On a entendu ce matin, on a déjà entendu, hein, faire partie de la solution, pas du problème. Puis, en fait, c'est ce que ça dit. C'est vrai. En d'autres mots, il faut éviter le conflit. Il faut pratiquer l'amour. Hein, l'amour couvre une multitude. Et ce n'est pas dire qu'on ferme les yeux sur le péché. Ce n'est pas ça. Il faut être un chrétien fort à l'image du Christ, comme le Seigneur Jésus l'était. Il y a une image qui m'a frappé en terminant. Êtes-vous un chrétien des catacombes, un chrétien fort, vous savez, comme l'image qu'on a vue tantôt, là, debout, là, face à l'adversité, là, puis, hein, l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Je me suis tenu debout jusqu'à la fin. Ma vie, hein, a servi de libation sur le sacrifice de Christ. Êtes-vous un chrétien fort ou vous êtes une personne religieuse? Puis là, les couleurs que j'ai mises ne sont pas par hasard. C'est une personne religieuse vers d'autres. Là. C'est pas bien, bien beau. En tout cas, à mon goût, à moi, là, c'est pas bien, bien beau. Là. Vous comprenez, là. Un chrétien fort. Steve Green, dans les années 80, un chanteur américain de la Californie, un frère bien zélé, il a fait un album, No Compromise. Puis l'image qui est sur l'album, là, c'est à l'époque d'Israël, en Égypte. Là, tu vois les serviteurs de Pharaon qui passent avec l'idole. Tu sais, les serviteurs, ils s'en vont, là, puis ils portent l'idole en or. Puis tous les Juifs sont tous à genoux, agenouillés, la tête par terre. Il y en a, puis sur une centaine, il y en a juste un qui est debout, qui se tient debout. Puis à côté de lui, ses frères, son, ils tendent la main comme ça, là, puis en voulant dire, descends-toi, tu vas te faire fouetter, tu vas te faire tuer, mais il est debout. C'est le seul qui n'adore pas l'idole. Parce que c'est un disciple du grand Dieu trois fois saint. Et ça, c'est une autre image qui m'a fait. J'étais jeune chrétien à l'époque, en 1980. Et ça venait rechercher cette même image que j'avais depuis que j'étais tout petit. Je veux être. J'ai le désir dans mon cœur. Et ce n'est pas prétentieux, là. À l'égard du si grand salut qu'on a reçu, frères et sœurs, le Seigneur Jésus attend de voir de ses enfants des chrétiens forts, puissants, pas puissants parce qu'on a mangé des bines, puissants parce que sa personne est forte en nous en raison du Saint-Esprit qui est libre. On est sensible au Saint-Esprit pour parler à notre cœur. Aller devant lui et pratiquer ce que le Seigneur pratiquait. On ne peut pas pratiquer ce que le Seigneur pratiquait juste dans notre chambre. Il y a une partie qu'on peut faire là, mais dans l'assemblée locale, c'est là où est-ce qu'on se frotte. Et c'est là qu'on pratique cet amour qui couvre une multitude de choses. Et c'est là qu'on devient puissant et fort. Oui, dans la communauté, dans le monde inconverti, on est un témoin. Mais à l'intérieur de l'Église locale, parmi le peuple de Dieu, le Seigneur veut voir ses enfants forts et puissants par l'Esprit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces qu'on a reçues de lui. Il veut qu'on les mette à la disposition de nos frères et de nos sœurs. Et c'est comme ça que le Maître est glorifié. Moi, j'ai choisi délibérément d'être un chrétien des catacombes qui est puissant. Et c'est le Seigneur Jésus qui me rend puissant dans ma faiblesse. Seigneur, encore une fois, on veut te remercier pour ce temps béni qu'on a eu. Merci pour ta présence. Merci pour ce talent que tu as d'aller dans nos cœurs, dans nos âmes, pour nous exciter à t'honorer, à te louer, pour aller toucher ces cordes sensibles. Seigneur, tu as des choses à nous reprocher. Aide-nous à les accepter, à les reconnaître, à te demander pardon. Et Seigneur, donne-nous le courage et la force de te suivre au travers de ces adversités, de ces temps difficiles, et d'être un chrétien fort à l'intérieur de l'Église locale, afin que tu sois glorifié, honoré.